Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme, une femme qui accepte de jouer les jeux de l'introspection en direct avec nous. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rajal Hilali, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Rajal?
Ça va très bien. J'espère que c'est la même chose de l'autre côté.
Alhamdoulilah. Heureuse d'être dans cet échange avec vous, justement. Alors, Raja, justement, est-ce que votre entourage, vos proches, savent qu'au-delà de vos différentes casquettes que vous êtes dans le marketing, vous avez lancé une marque de bijoux fait en Sfifa, Rebat, c'est ça?
Rebat.
Exactement.
Oui,
est-ce que votre entourage sait que vous êtes aussi une podcasteuse?
Oui, oui. Enfin, tout mon entourage, si je parle de mon entourage, c'est dans le côté professionnel que personnel.
Oui.
Tout mon entourage sait que je fais des podcasts. Et ils en sont fiers et en même temps, ça leur plaît. Ils écoutent. Et c'est les premières fans, si je peux dire ça.
Eh bien, ça, c'est bien. Alors, le podcast dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est cette série qui s'appelle Enfantine.
Effectivement.
Voilà.
En fait, le podcast, c'est le nom du podcast, c'est Clique sur Play. Ça invite les gens à cliquer sur le bouton Play et écouter à n'importe quelle heure de leur journée, que ce soit le soir, le matin, n'importe, parce que j'ai pas un moment précis où vous pouvez écouter mes podcasts. Mais en même temps, ça parle aussi de mon histoire et ça parle du quotidien et de mes expériences que j'ai vécues.
Voilà. Alors, c'est de ça qu'on va parler, justement. Est-ce que c'était thérapeutique de poser dans un podcast votre histoire de vie?
Bien sûr que c'est thérapeutique, parce que moi, à la base, j'ai commencé par écrire.
Oui.
Comme je précise, j'ai commencé par écrire en anonymat. Donc, à la base, ça m'a aidée en premier lieu. Et par la suite, quand je me suis affichée, ça m'a encore plus aidée, parce que les gens qui m'entouraient savaient qui j'étais réellement et aussi pouvaient mettre l'histoire sur mon image à moi et aussi par rapport à Raja, la personne, non seulement Raja qui écrit et qui écrit en anonymat. Donc, et par la suite, le fait de parler et d'en parler sur les podcasts, ça m'a aidé encore plus. Et toute façon de s'exprimer qui est correcte et qui est noble, bah, ça reste une thérapie pour chaque personne qui le fait.
Alors, c'est quoi votre histoire, Raja, justement?
Alors, par rapport à mon histoire, j'ai évoqué, c'est une chose que je vis depuis ma naissance, c'est que j'ai été adoptée par une famille. Et certainement, ce sujet est un sujet très tabou. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais c'est un sujet qui est quand même tabou, qui est un peu sensible, délicat. Donc, c'est un sujet dont on ne parle pas et on n'évoque pas souvent. On évoque les associations, on évoque les personnes, enfin les enfants qui ont été abandonnés, mais on n'évoque pas les personnes qui ont été adoptées et qui vivent très bien et qui sont normales, qui sont des personnes qui vivent telles que les autres qui connaissent leurs parents biologiques. Donc moi, j'ai évoqué ce sujet, je suis partie de mon histoire et de mon expérience à moi-même.
Okay.
Donc en fait, c'est ça le sujet phare qui a déclenché toute cette série d'écriture, de récits, de podcasts, d'interviews, etc.
Ok, alors justement, on va y aller petit à petit parce que, comme vous dites, on ne parle jamais des enfants. On parle d'avant, on parle souvent de quand on parle de l'adoption, comme étant un problème en fait. Un problème pour adopter, toute la paperasse, etc. Ensuite, un problème, est-ce qu'il faut annoncer, il ne faut pas annoncer, comment vivre l'adolescence, etc. avec cet enfant-là, etc. On voit plutôt le verre à moitié vide et vous, aujourd'hui, vous dites il faut voir le verre à moitié plein. On va y aller petit
à
petit.
Il est plein à
100%. À 100%. À quel âge vous l'avez su, Raja?
Alors, je l'ai su à l'âge de 5 ans. En fait, moi, mon histoire, elle est un peu différente des autres histoires d'adoption parce que moi, en fait, ce ne sont pas mes parents, genre ma mère et mon père qui m'ont adoptée, c'est ma grand-mère. je parle toujours de la famille qui m'a adoptée. Parce que moi, à la base, mes parents ou bien toute la famille biologique, je n'en ai aucune idée. Je les ai jamais eu, je n'ai jamais eu de contact avec eux.
Okay.
Donc, en fait, moi, c'est ma grand-mère qui m'a adoptée. C'est une grande femme qui a de la, beaucoup d'enfants et beaucoup de, enfin, de filles et de, comme de fils, mais elle avait besoin d'adopter, elle avait besoin d'avoir une compagnie pendant une bonne période. Mais l'histoire ne s'est pas finie comme ça parce qu'à la base, elle ne pouvait pas uniquement m'adopter, mais aussi assurer ma vie par la suite, assurer mes études, assurer toute mon éducation. Donc c'était une adoption, c'était comme une naissance dans une famille, mais qui n'était pas soi-disant biologique.
C'est ça.
Donc, mais, moi, quand mais, j'étais...
Alors quand vous êtes arrivée dans cette famille, vous aviez quel âge?
J'avais 3 jours.
D'accord.
Donc j'étais encore bébé, donc toutes les années avant mes 5 ans, je ne savais pas, mais je sentais que c'était pas ma famille biologique, parce qu'à la base, au début, je ne disais ni maman ni papa. Donc c'était uniquement Mouima que je disais. C'était le seul mot que je disais qui était relatif à ma famille. Donc par la suite, c'était ma grand-mère qui a pris le lead pour m'en parler.
Et, et comment honnêtement, ça, vous vous rappelez comment ça s'est passé?
Oui, bien sûr. C'était une discussion intime entre Mouima et moi. Elle a commencé à m'expliquer, mais par la suite, c'était moi qui avais fini la phrase. Je lui ai dit comme quoi, je sais que tu n'es pas ma mère biologique. Enfin, je l'ai dit avec les mots que j'avais dans mon petit background d'un enfant de 5 ans, mais j'avais compris parce que l'instinct, il est là et l'enfant, honnêtement, il a quand même une intelligence émotionnelle. Mmh. Donc, il sait qu'il ne peut ni dire ni papa ni maman. Donc, automatiquement, il y a un truc qui cloche.
Alors, pardon, une petite question. À cet âge-là, justement, en général, on va à la crèche, etc. Où on entend les autres enfants dire papa, maman. Et par exemple, quand j'échange avec des mamans divorcées, etc., dont les enfants ne voient pas, par exemple, le père, le cas de figure, les enfants demandent à leur maman, il est où mon papa? Pourquoi moi, je ne vois pas mon papa, etc. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous n'avez jamais demandé pourquoi moi, j'appelle personne maman, j'appelle personne papa?
C'était des questions que je me posais à moi-même, mais que je n'osais pas les poser à haute voix ou bien à quelqu'un d'autre, parce que j'avais toujours un point d'interrogation et j'attendais juste la réponse avec moi-même. En fait, je n'osais pas en parler parce que, je ne sais pas, c'était par peur, par le fait que j'étais un peu timide à cet âge-là, mais en même temps, peut-être aussi le fait que Mouima existait pour moi, enfin, Alhamdoulilah, elle existe toujours, c'est que... ça me comblait. Mm. C'est comme si je n'avais pas réellement besoin d'une présence d'un père ou d'une mère. Elle me comblait, elle faisait les deux rôles, elle était là. En même temps, il y avait mes oncles, il y avait mes tantes. C'est comme, enfin, jusqu'à date, je suis toujours comblée, quoique par la suite, je vais rejoindre mes parents. Mais je suis toujours comblée dans ce côté-là. Je n'ai pas eu ce besoin de chercher où est mon père ou bien... Pourquoi je ne dis pas papa, ni je ne dis pas maman. Et à l'âge de 5 ans, c'était un peu tôt pour une personne. Dans la norme, c'est un peu tôt, 5 ans. Mais Mouima, elle avait bien fait de m'en parler à cet âge-là pour me préparer psychologiquement. Et en même temps, j'étais dans la crèche, mais par la suite, à l'âge de 5 ans, je suis rentrée à l'école. Donc c'était un peu... Dans le bon moment, elle a fait ça au bon moment et elle a fait ça justement pour que je m'y prépare psychiquement et aussi avec mon entourage que j'allais rencontrer par la suite.
Alors, par rapport à ça justement, le après, à quel moment vous avez eu une maman et un papa?
Alors, c'était à l'âge de 7 ans ou bien 8 ans. Mouima, elle a pas fait d'études, donc elle ne pouvait pas justement me assurer le fait de faire le suivi avec moi à l'école et beaucoup de choses. Donc, elle a donné le lead à ma mère, et c'est sa fille et son mari. Donc, sa fille, c'est ma mère et le mari, c'est mon père. Donc,
par la suite, ma mère. C'était difficile d'aller d'une maison à une autre? Ouais.
Oui, très très difficile, parce que moi jusqu'à date j'ai un lien hyper fort avec
Mouima,
avec Mouima, ouais. Qui ne peut jamais être cassé et qui ne peut jamais être remplacé. Donc c'était très difficile pour moi. Je vivais dans Mouima, c'était plus chouche et tout, mais maman c'était un peu plus dur. Je sais qu'elle avait fait ça pour...
C'est une mère, elle a fait
ça pour assurer sa mission,
ouais.
Pour justement assurer toutes les choses dont elle a été missionnée. Donc c'est normal qu'elle va réagir comme ça. Mais en même temps, pour un enfant de 8 ans ou bien de 7 ans, c'est difficile cette transition. Elle est très, très difficile.
Ouais.
Et j'ai considéré ça comme de l'abandon. J'ai considéré ça comme... C'était une frustration, c'était de la peur, c'était du refus, je n'acceptais pas. Et ça a duré quand même pendant un an où je me posais des questions et je me suis dit pourquoi encore une fois je vais être abandonnée, beaucoup de choses. Mais avec du recul, là, à cet âge-là, à mes trentaines, je comprends et je réalise. Moi aussi, si j'étais à la place de ma mère, j'aurais peut-être réagi de la même façon et aussi géré les choses de la sorte. Mais ça reste un peu difficile pour un enfant.
Absolument,
donc,
absolument.
Oui.
Est-ce que vous savez pourquoi c'est cette mère en particulier qui a été missionnée?
Bien sûr, parce que ma mère, c'est une prof au lycée. Ma mère, c'est elle qui prenait les leads quand Mouima n'était pas à la maison. C'est elle qui prenait soin de ses sœurs. Donc, c'était un peu
la
deuxième... femme au foyer,
ouais,
effectivement.
Ouais, ouais.
Donc, c'était normal. Moi, en connaissant tous les membres de la famille, je sais que personne... ça n'aurait pas été parfait avec quelqu'un d'autre à part avec maman.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est normal parce que maman, elle a déjà une fille, c'est ma sœur. Donc, elle a assuré toutes ses études, elle a assuré toute la période... où elle devait suivre avec elle, que ce soit ses devoirs ou dans l'état primaire ou collège ou lycée. Donc, c'est normal que Mouima, elle ne m'aurait pas donné à quelqu'un d'autre.
Vous avez une grande sœur.
Oui, effectivement.
Alors,
oui,
la petite fille qu'était Raja, justement, en ce moment-là, petite fille de 7-8 ans, avec autant de questionnements, comment vous avez réussi à trouver votre place au sein de cette cellule déjà constituée? Vous êtes sorti déjà d'un cocon, celui qui vous a bercé depuis vos 3 jours, au moment où vous avez été adopté par le Mouima. Et ensuite, vous êtes parti dans une autre... Est-ce que c'était la même ville?
Non, ce n'était pas la même ville. Moi, à la base, je suis née à Souera. Toutes les 7 ou bien 8 premières années, j'étais chez Mouima. Par la suite,
à Souera même.
Oui, et par la suite, je devais partir à Agadir.
Okay. Donc, changer de maison et changer de ville.
Oui, c'était un changer de maison, changer de quartier, changer de ville, changer de personne, d'entourage.
De rythme, de
d'environnement,
vie.
D'environnement, de rythme, certainement, de rythme. Et c'est plus ça qui m'a un peu chamboulée, parce que le rythme n'était vraiment pas le même. Donc, automatiquement, ça m'a chamboulée, ça m'a frustrée. Et comme j'ai dit, je précise que je n'étais vraiment pas dans la phase d'acceptation pendant cette période. Mais c'est un mal pour un bien, certainement, parce que ça m'a aidée et ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est un mal pour un bien, je considère les choses comme ça.
Alors, votre place, vous l'avez trouvée comment?
Alors, à la base, moi, comme étant une personne un peu rebelle, mais en même temps, je prends le temps d'observer. Comme j'ai dit au début, moi... À mes 5 ans, je savais que je n'étais pas une fille biologique de Mouima, mais j'observais. Donc moi, je suis une personne qui observe beaucoup et qui analyse beaucoup. Dans la phase où j'étais, quand je n'acceptais pas et quand je n'étais pas vraiment, j'étais dans le déni total, ça m'a permis un peu, même à cet âge-là, de prendre un peu le recul et de comprendre pourquoi. Mouima m'a donné à sa fille pour justement assurer mon avenir. Donc, j'ai pris un peu de recul, mais c'était un peu petit à petit où j'ai commencé à me dire il est temps que je prenne ma place et que j'accepte la situation. Mmh. En même temps, ma mère et mon père, ma sœur qui étaient là pendant cette période, C'était, y avait beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Donc, c'était pas, c'était moi un peu soi-disant la méchante dans l'histoire. C'était pas mes parents ou ma sœur. Donc, ils attendaient juste à ce que j'accepte la situation et à que je me mette dans le bain, c'est tout. Mais c'était un peu dur au début. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Et par la suite, je les ai trouvés un peu... Enfin, ils étaient réceptifs. Ils étaient à l'écoute. Et ça m'a permis un peu de changer quand même. Enfin, au lieu de... Enfin, pour un enfant, je disais quand même maman, papa, ma sœur Kautar et beaucoup de choses. Donc, c'était quand même un changement qui était positif, qui n'était pas vraiment négatif en fin de compte. Et moi, j'ai un trait de caractère qui est un peu spécial, donc ça faisait un peu d'ambiance à la maison, ça changeait un peu de la routine de chaque jour. Donc, ça a créé une petite ambiance qui est quand même sympa. Donc, au final, c'était un bon combo et ça a donné de belles choses.
Alors, est-ce que vous avez parfois, à travers justement les réseaux sociaux, des ados, des jeunes qui vous posent des questions, qui sont eux-mêmes adoptés, qui sont peut-être dans une période de mal-être? Est-ce que vous avez quel type de questions en général?
Alors, la fameuse question, c'est comment accepter la situation. En fait, honnêtement, ce que je reçois comme message, c'est des messages des personnes qui sont adultes, qui ne sont même pas des ados ou bien des enfants, c'est des adultes qui ont pu avoir leurs enfants à eux, qui ont pu fonder leur famille et beaucoup de choses, mais qui n'acceptent pas. Ça reste un trou noir et ça reste une bête noire pour eux. Et le fait d'en parler justement, ça les a aidés beaucoup parce que voir une inconnue en parler à son image et parler avec sa propre image et parler de sa propre expérience, ça réconforte. C'est le fait de voir quelqu'un qui vit ou bien qui a vécu la même chose que toi, ça te réconforte. Donc, automatiquement, il va toucher quelques points qui te titillent, il va toucher quelques points qui te font mal. Donc, automatiquement, ça va te réconforter. Donc, le type de question que je reçois, c'est « je n'arrive pas à accepter, comment je pourrais en parler à mon entourage ?» Est-ce que c'est normal que je sente la même chose ou bien que je ressente un truc qui ne va pas, que je sente le fait que je suis différent des autres et beaucoup de choses qui viennent par la suite. Ma réponse reste toujours la même, c'est que si tu n'arrives pas, moi comme j'ai dit tout à l'heure, c'est moi je vois tout le verre qui est plein, si tu n'arrives pas à voir uniquement ou bien ne serait-ce que la partie pleine de ton verre, tu n'arriveras jamais à avancer. Et tu n'arriveras jamais à accepter la situation. Parce que la situation, tu la vis et tu vas la vivre tout au long de ta vie. Rien ne va changer. Tu as été adopté. Tu dois vivre avec la situation et en même temps, voir les bons points de la chose. Peut-être que si tu n'as pas été adopté, tu allais vivre mal, tu allais vivre autre chose que tu ne pourras jamais imaginer. Donc, des fois, la personne doit quand même être reconnaissante à sa situation, reconnaissante à ce qui se passe autour d'elle.
Est-ce qu'il y a des moments où ça a été compliqué aussi? Par exemple, vous l'avez dit, jusqu'à l'âge de 5 ans, vous étiez un peu dans le flou. À l'âge de 5 ans, le mal, vous expliquez la situation. 7 ans, 8 ans, vous êtes allé chez vos parents. C'est la fille de le Mouima qui vous a accueilli. Mais est-ce qu'il y a eu aussi des moments difficiles après? Est-ce qu'il y a eu la question de pourquoi, qui sont mes parents biologiques? Est-ce qu'il y a eu ce besoin-là?
Des fois, oui, certainement, parce qu'il y a toujours des remises en question. Et en même temps, c'était dans la période d'adolescence, c'est là où tout ton organisme se change et tout en c'est tout un changement, que ce soit hormonal ou physique ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout un changement. Et bien sûr, le côté psychique et psychologique va avec. Donc, tu te poses des questions. Des fois, tu commences à te comparer. Et des fois, tu commences à voir et à détecter que ce que les gens ont et pas ce que tu as. C'est normal comme phase, mais alhamdoulilah, ça n'a pas trop duré. Et en même temps, moi, c'était plus le manque de Mouima qui m'affectait beaucoup, qui m'impactait beaucoup. Donc, c'était plus ça qu'autre chose. C'était plus le fait pourquoi je suis loin de Mouima, pourquoi Mouima n'est pas là. Elle était souvent en France, donc moi je ne la voyais pas beaucoup. Elle était loin. Les fois où je la voyais, c'était uniquement durant les vacances. Donc, et je devais m'adapter aussi par rapport à la période où je devais passer mes vacances avec mes parents et en parallèle avec Mouima. Donc, c'était plus ce côté qui m'impactait beaucoup, plus qu'autre chose. Et le fait de se poser cette question, de se dire pourquoi je n'ai jamais eu, pourquoi je n'ai pas eu mes parents aussi biologiques, moi, ça m'impactait aussi uniquement, enfin, dans le côté où je voulais juste savoir à qui je ressemblais. D'ailleurs, je l'avais écrit dans l'un des articles sur Enfantine, c'était plus ça qu'autre chose. C'était juste de voir cet air familier, de voir quelqu'un à qui je ressemblais, de voir à qui je ressemblais, est-ce que c'était à ma mère ou à mon père, est-ce que j'avais des sœurs, des frères. C'était plus dans ce côté-là qu'autre chose. Le fait de se comparer...
Vous avez eu des réponses ou pas?
Non.
Jamais,
non,
vous n'avez jamais voulu chercher?
J'ai essayé de chercher, mais comme étant Souera, c'est une ville qui est assez petite, donc si ses parents étaient là, certainement je les aurais trouvés.
Ouais.
Mais en même temps, je me dis, peut-être c'est aussi, encore une fois je dis ça, c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que j'aurais vu des choses qui ne m'auraient pas plu forcément, ou... Moi, je dis toujours, s'il y a une vérité cachée, c'est uniquement pour mon bien.
Ouais.
Je vois les choses de cette manière. Donc, peut-être le jour viendra de les croiser ou bien de les voir ou bien de les rencontrer spontanément ou ça va être un pur hasard, mais ça va être au bon moment. Moi, j'ai cette logique et je pars avec cette logique dans ma vie.
Eh bien, merci infiniment. Merci infiniment, Raja El Hilali. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.